Et bienvenue sur l'antenne de Radio Imo, ravi de vous retrouver pour vous faire vivre depuis la Maison de la Chimie à Paris cette 12e édition du Speed Dating de l'immobilier, rendez-vous incontournable qui réunit à la fois des promoteurs, des bailleurs sociaux, des élus, des acteurs de la ville et des partenaires financiers autour de cet enjeu qui est évidemment majeur, faire sortir des projets malgré un marché sous tension. Et pour cette nouvelle interview, m'a rejoint à cette table Sébastien Kuperberg. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous êtes le directeur général de la CAPS, la coopérative d'action sociale à la propriété. Merci encore une fois de venir répondre à mes questions. Avant de parler ensemble de BRS, de dynamique territoriale, est-ce qu'on peut tout simplement présenter un petit peu le champ d'action de la CAPS ? Qui vous êtes ? Comment finalement vous êtes aussi quelque part organisé ? Ce qui fait aussi peut-être votre particularité en tant que coopérative ?
Alors vous l'avez dit, on est une coopérative, donc dans la famille des HLM, c'est historiquement la famille de l'accession sociale à la propriété. Et ça tombe bien parce que notre cœur de métier, notre métier, c'est l'accession sociale à la propriété. Donc j'ai l'habitude de nous définir comme un promoteur immobilier social. On fait le même métier, on monte des opérations, on les commercialise dans un cadre d'accession sociale sécurisé et encadré. La CAPS, vous l'avez dit, on est une coopérative d'accession et notre particularité, c'est notre gouvernance. On est rattaché au territoire de pleine commune. Donc pleine commune, c'est 9 communes en Seine-Saint-Denis. C'est le plus gros EPT francilien. C'est 450 000 habitants. C'est 3 600 logements neufs par an. Et dans ce territoire en mutation et ce territoire où il y a encore beaucoup de foncier à muter, eh ben notre rôle est de produire une offre abordable en accession sociale qui vise à permettre les parcours d'accession des habitants du territoire en premier lieu.
Alors, votre territoire est aujourd'hui, on va le dire, l'un des plus dynamiques de France en matière de bail réel solidaire. Une étude récente de l'atelier parisien de l'urbanisme confirme entre 500 et 600 logements en production-commercialisation, des dizaines d'opérations qui sont actuellement en cours, plus de 500 ménages agréés en 2 ans par l'organisme de foncier solidaire. Ces chiffres-là que je viens d'énoncer, finalement, ils traduisent quoi de la dynamique locale actuelle ?
Le BRS a été pour le territoire de pleine commune une vraie opportunité d'asseoir la production en accession sociale sur un territoire qui représente quand même une grande attractivité. On est à 3 stations de métro de Paris, il y a des tramways, il y a le RER, il y a la ligne H du métro, du train, donc hyper accessible. Et a voulu donc développer une offre abordable et pérenne. Le problème des anciens dispositifs d'accession sociale à la propriété, comme le PSLA, en tout cas sur les communes, les premières communes limitrophes de Paris, en zone ABIS en particulier, bah c'est un one shot. On fait une opération en PSLA et à la première mutation ou à la deuxième mutation, c'est un logement qui revient dans le marché spéculatif. Le territoire, en 2020, s'est emparé du BRS comme une vraie opportunité de produire une accession sociale abordable, pérenne, sur toute la durée de vie, j'ai envie de dire, du bâtiment. Et la CAPS, en tant qu'opérateur coopératif du territoire, notre gouvernance, c'est pleine commune. Le président de la CAPS, c'est le président de pleine commune Habitat, c'est le président de l'OFS, c'est le vice-président en charge de l'aménagement du logement, de l'habitat et de l'urbanisme à pleine commune, a décidé de créer donc son propre OFS afin d'accompagner l'accession sociale qui est devenue aujourd'hui dans le PLH de pleine commune un peu la pierre angulaire de l'édifice avec 20% de la production de l'accession sociale, donc à peu près 600 logements par an.
Alors pour qu'un territoire produise autant de BRS, j'imagine qu'il faut un petit peu autre chose que de la simple volonté politique, même si c'est évidemment très très important. C'est quoi les ingrédients concrets qui ont permis finalement cette montée en puissance ? Comment est-ce que vous avez travaillé ?
Alors vous l'avez rappelé déjà, on ne peut pas faire sans une forte volonté politique et un cap clair on va dire l'alignement des acteurs du territoire afin de concourir à l'objectif. L'alignement, ça veut dire un écosystème intégré et qui va produire du foncier abordable afin de sortir les opérations en BRS. En BRS ou même on fait encore du PSLA dès qu'on n'est plus en première couronne on fait encore du PSLA. Donc on a un territoire qui a intégré tous les acteurs de la chaîne du logement. Donc c'est évidemment c'est la programmation au niveau du territoire et l'aménagement. C'est l'aménageur avec Pleine Commune Développement. C'est l'office HLM Pleine Commune Habitat qui est aussi partie prenante de nos opérations. Et puis c'est la CAPS en tant qu'opérateur d'accession sociale qui va venir produire, commercialiser et apporter son expertise sur... sur la manière de produire une offre en accession sociale.
Histoire de bien se projeter, Sébastien Kupperberg, est-ce qu'on peut donner comme ça un ou deux exemples concrets d'opérations qui illustrent justement cette capacité qu'a votre territoire à produire du BRS en volumétrie, j'ai envie de dire, importante?
Alors, une des clés du succès de la production, en tout cas de l'offre abondante en BRS, c'est que dès le début, le territoire a dit on va faire du BRS, mais on ne va pas le faire exclusivement avec les opérateurs HLM. Alors ça peut faire un peu débat, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une production, la CAP, c'est le premier producteur en BRS sur le territoire, mais il y a également une production qui est réalisée par la promotion et que nous, on peut accompagner notamment par des copromotions, soit directement, soit via des montages. On a, pour donc citer un exemple, aujourd'hui, on a une opération en copromotion SCCV avec Séquence Accession, qui est aussi une coopérative HLM, mais dans un cadre d'opération beaucoup plus large, vu qu'on est en groupement de commandes et en cotitularité sur un permis de construire avec Emerige, sur une opération qui compte 200 logements, et le BRS en compte pour 40. Donc voilà, on arrive à faire des montages un peu d'envergure qui permettent alors le volume de tirer un petit peu les prix et puis de trouver des synergies avec la promotion. J'ai d'autres programmes, on a un autre programme où on fait travailler tout l'écosystème que je citais tout à l'heure en copromotion avec donc la CAPS, Pleine Commune d'Habitat et Pleine Commune Développement. Donc on a une copromotion, c'est sur la ZAC Confluence à Saint-Denis, à proximité de la gare, en BRS, qui rentre en commercialisation. Et puis d'autres projets en copromotion, à la fois de la copromotion HLM et aussi de la copromotion coopérative HLM et partenaire promoteur privé.
C'est ça la réponse, la copromotion, justement, pour faire...
Alors, je ne sais pas si c'est la réponse.
C'est une réponse, en tout cas.
C'est une réponse. C'est une réponse aujourd'hui qui nous convient parce que nous, on apporte une expertise sur ce produit BRS et sur le produit d'accession sociale à Pleine Commune, qui est un peu particulier parce que je vais quand même le rappeler que c'est un des territoires les plus pauvres en Île-de-France. Le revenu médian par unité de consommation, il est de 14 000 euros, alors qu'il est de 24 000 euros sur l'Île-de-France. Donc ça ne se commercialise pas en se baissant, c'est un peu plus compliqué. Et donc nous, on apporte notre expertise et nos partenaires, qu'ils soient autres COP HLM ou promoteurs, sont contents de rencontrer cette expertise. Pour traverser un petit peu, faire un bout de chemin ensemble.
En tout cas, clairement, ça permet une accélération des projets.
Ça a permis une accélération des projets et puis un développement aujourd'hui, c'est vrai, massif du BRS, parce que comme vous l'avez dit, on n'a pas loin de 600 logements sur 9 opérations et au moins autant en développement.
Ouais, c'est tout sauf négligeable. Comment ça se déroule justement une opération BRS type avec la CAPS? On a parlé des partenaires, on peut en reparler encore, mais est-ce qu'il y a des étapes clés? C'est quoi le process, le déroulé finalement?
C'est une valse à mi-temps, à mi-temps, mais la particularité de cette valse, c'est qu'on est trois.
Ouais.
On est trois parce qu'on a un partenaire supplémentaire qu'on intègre très rapidement dans le montage et dans la réflexion, c'est l'OFS.
Ouais.
Donc l'OFS territorial est un GIP intégré, dont les membres fondateurs sont la CAPS, le territoire de Pleine Commune et Pleine Commune Habitat, le bailleur. Et avec son directeur du développement, Jean-Baptiste Soulard, on intègre très rapidement son expertise dans le bilan d'opération de manière à être certain que dès le début, on ne part pas sur de mauvaises hypothèses de montage. Donc en fait, on intègre très rapidement. Il n'arrive pas en bout de chaîne de production de l'opération du logement. Il doit être intégré le plus en amont possible, de manière à sécuriser la programmation de manière générale du BRS sur le territoire, de vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité ou d'une suroffre sur un endroit, sur un territoire, enfin une zone géographique particulière, et puis de valider avec le maître d'ouvrage ces hypothèses de montage et de valorisation de charges foncières.
Finalement, ce territoire de Pleine Commune, il est vraiment favorable au développement du BRS?
C'est le moins qu'on puisse dire. C'est qu'il est favorable, il l'accompagne, il le pousse, il le porte.
Laboratoire même
Alors, la question, c'est un laboratoire, on y fait des expériences. Alors, est-ce qu'on est encore en train de faire de l'expérience ou on va maintenant partir sur de la production un peu plus... Je pense qu'on est encore en phase de consolidation des expériences qu'on a menées. Ce qu'on a fait, on voit que ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a d'autres questions qui se posent, notamment le fameux amendement qui va, si la loi de finances est votée, qui va augmenter considérablement, encore une fois, les plafonds de ressources du BRS en les montant à ceux du LLI. Ça va poser beaucoup de questions et il va falloir peut-être qu'on se réinterroge sur la manière de produire du BRS. Donc non, rien n'est... Enfin, on est un laboratoire qui ne cesse d'expérimenter. En tout cas, c'est aussi la chance de faire de l'accession sociale, c'est qu'on invente les produits depuis plus de 20 ans. Et je pense qu'on continuera à expérimenter en fonction du contexte dans lequel on évolue.
À plusieurs reprises, vous m'avez parlé de l'OFS, qui a été, on va dire, avec sa création, finalement, un vrai moment clé. Il joue concrètement quel rôle dans la structuration justement du marché local ?
Alors, avant même la création de l'OFS par le territoire en 2022, la décision a été prise à peu près en 2020, il ne faut pas perdre de vue que c'était Pleine Commune et historiquement un territoire qui a fait de la chose, de l'objet logement, un bien public. Au sens noble du terme, et donc il s'est accaparé la thématique dès le début des années 2000 en créant la première charte promoteur, ce qu'on appelle les chartes promoteurs, qu'on appelle chez nous la convention qualité construction neuve, qui encadre les prix, déjà, avant même la création du BRS. Donc la problématique qui est la nôtre aujourd'hui, et le rôle un petit peu de l'OFS, c'est de valider des positionnements prix en BRS qui soient cohérents avec les prix de convention. Et... Je ne vais pas vous cacher que c'est un petit peu difficile au regard de l'augmentation des coûts de production et des prix de convention aujourd'hui qui sont justes. Mais comme on doit décoter nos prix de vente de 25%, l'équation est un peu plus difficile.
Alors, la semaine dernière, il y a un amendement qui a modifié les plafonds de ressources du LLI, le logement locatif intermédiaire. Je précise de quoi il s'agit. Évidemment, ça a des impacts sur le positionnement, j'imagine, du BRS sur le territoire. Il y a finalement, ça participe aussi quelque part au climat d'incertitude, au flou, entre guillemets, artistique qui règne en ce moment. C'est quoi les répercussions directes pour vous ?
Alors il y a cet amendement qui a été voté, qui n'était absolument pas demandé par le mouvement, comme l'augmentation des plafonds il y a 2 ans, le mouvement HLM et les opérateurs ne demandaient pas cette augmentation. Nous, ce qu'on attendait et qui a été voté et qui avait été porté notamment par Stéphane Peu, c'est le PTZ dans les reventes successives en BRS.
Le prêt à taux zéro.
Voilà, le prêt à taux zéro. L'augmentation des plafonds LLI du BRS nous inquiète à deux titres. La première, c'est que ce n'était pas demandé, ce n'était pas nécessaire. En tout cas, à l'échelle de notre territoire, ce n'est pas nécessaire parce qu'aujourd'hui, même avec l'augmentation des plafonds il y a 2 ans, qui sont passés à ceux du PLS, enfin même plus, nous, on continue à vendre sous les anciens plafonds du BRS. Ça n'a pas changé la physionomie de notre cœur de cible. Vendre sous les plafonds du LLI sur notre territoire, peut-être que d'autres territoires, ça va faciliter. Mais le risque, c'est la banalisation. Et le risque de la banalisation, c'est de finalement sortir de la spécificité qui était du BRS, qui est de produire une offre pérenne en accession sociale, donc à bas coût, donc dissociée du prix, des prix de marché. Et en se rapprochant finalement, en sortant des plafonds de ressources du service d'intérêt économique général qui est défini par la Commission européenne, le risque, c'est de se retrouver avec une TVA soit à taux plein, soit à 10%. Donc, quelque part, de perdre un des avantages fiscaux qui nous différenciait, qui nous permettait d'offrir une offre décotée. Donc, c'est le risque, c'est la banalisation.
Donc une vraie répercussion. On arrive au terme de cet entretien et peut-être avant de vous remercier, peut-être cette ultime question, c'est quoi pour vous l'intérêt d'être présent sur ce type d'événement, là, la 12e édition du Speed Dating du logement ?
Alors l'intérêt, c'est déjà Arkéa est un partenaire pour nous qui est central, enfin qui nous accompagne, alors la CAPS depuis de nombreuses années. Moi, à titre personnel, également depuis de nombreuses années, qui répond présent dès qu'on en a besoin. Donc déjà, faire acte de présence, c'est quelque part montrer une certaine fidélité à l'opérateur qu'il est. Et puis, on est toujours friand. Enfin, en tout cas, moi, je suis friand de revoir les collègues, les copains. On se voit au congrès HLM. On n'a pas souvent des occasions où on voit tout le monde au même endroit, au même moment. Donc, c'est toujours agréable de voir les partenaires, COP, notamment les partenaires HLM. Et puis, c'est aussi un moment où on rencontre les autres partenaires de la promotion, les aménageurs, enfin... Pour la CAP, c'est moins intéressant parce qu'on est sur un écosystème intégré. Mais voilà, donc voir du monde, échanger, parler de nos inquiétudes, mais aussi de nos...
D'optimisme.
D'optimisme, on essaie de l'être.
Hein. C'est important.
Oui, c'est important.
Par les temps qui courent.
Voilà.
Un grand merci, Sébastien.
Merci à vous. Merci pour l'invitation.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Il s'agit bien du 12e speed dating de l'immobilier, bien évidemment, et pas du logement, même si on parle évidemment beaucoup de logement à cette occasion. Un grand merci à vous. Merci.
Merci encore.
Dans quelques instants, vous pourrez retrouver cette émission disponible directement en replay depuis notre application, notre site internet sur Radio Immo. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.